Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Nikèze Kibelbel. Il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Il vient de publier l'ouvrage intitulé « Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024 ». Bonjour Nikèze Kibelbel Oka.
Bonjour Timothée.
En ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Josaphat Moustamba, il est doctorant à l'université de Gand en Belgique. Il est un chercheur congolais basé au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Bonjour Josaphat Moustamba.
Bonjour.
Et aussi en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembo en RDC. Bonjour professeur Pierre Virgence.
Bonjour, bonjour.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Nikèze Kibelbel Oka. Il est journaliste, il est éditeur du journal Les Coulisses et il vient de publier l'ouvrage intitulé « Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024 ». En ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Josaphat Moustamba, il est doctorant à l'université de Gand en Belgique. Il est un chercheur congolais basé au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Et en ligne aussi depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembo en RDC. Au menu de cette émission, la dimension régionale de la crise de l'Est de la RDC. Message du président Félix Tshisekedi à la nation dans un contexte de conflits asymétriques. Et enfin, la présence du M23 dans la ville de Goma, question humanitaire et libre circulation des personnes. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la journée internationale de la fraternité humaine que le monde va célébrer ce mardi 4 février. En effet, la journée internationale de la fraternité humaine, célébrée le 4 février de chaque année, s'inscrit dans une tradition historique riche et significative. Après la Seconde Guerre mondiale, la fondation de l'ONU en 1945 a marqué un tournant avec pour objectif de préserver les générations futures des horreurs de la guerre et de promouvoir le respect des droits humains sans distinction. Cette journée tire ses racines de plusieurs événements marquants. En 1999, l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la déclaration et du programme d'action sur une culture de la paix a défini un mandat universel pour la promotion de la paix. Nikèze Kibelbel, quel sens peut-on accorder à cette journée dédiée à la fraternité ou à la solidarité humaine dans un monde marqué par des divisions et des conflits?
Merci beaucoup. Il faut dire que, effectivement, le monde entier fait face à des défis de guerre, à des défis des horreurs, des déplacés et des réfugiés. Alors, le sens qu'on peut accorder à cette journée, c'est effectivement, s'aimer, cultiver la paix, cultiver l'entente, l'harmonie entre le peuple, ce qui n'est pas facile. Donc, il faut nécessairement qu'on arrive à un monde où la paix est le gage et même le maître mot de toute une existence humaine.
Merci, Josaphat Moussamba. La célébration de cette journée ne devait-elle pas être une occasion, n'est-ce pas, pour que le monde se penche sur les causes profondes des conflits afin de voir comment s'y attaquer?
Oui, merci, Timothée. Je rejoins ce qu'a dit Lucas. Cependant, j'ai doute plus ou moins de, pour pas moraliser, hein, parce que la nature humaine, à un certain moment, les dynamiques de conflit sont construites dans le processus de socialisation, en regardant les contextes dans lesquels à la fois les nations, les communautés et les États se retrouvent. Et ça, je pense, au niveau de la nature humaine, la solidarité, déjà, il y a des éléments de la solidarité. On ne peut pas dire que cela n'existe pas. Parce que lorsqu'il y a des crises, il y a des crises qui amènent à des vulnérabilités. On voit des États, malgré qu'on dise des intérêts, ils vont apporter un appui humanitaire. Mais au niveau très local, on peut le voir aussi dans le système traditionnel. Ces questions vivent déjà dans nos communautés, nos clans, etc. Par contre, c'est difficile de le voir lorsque des conflits sont caractérisés par une longue durée de conflits. Et je refuse de parler de ces questions de causes profondes parce que c'est le discours de ceux qui pensent que le conflit dans le Congo s'est résolu dans ce qu'on appelle la civilisation des conflits. Par contre, il y a plusieurs conflits enchevêtrés, mais comment est-ce qu'on le résout, on le transforme de manière à ce qu'on vive dans la stabilité? Ça, c'est des questions qui peuvent être discutées selon le communauté, et selon les endroits, et selon les contextes.
Merci, professeur Pierre Vulgence. Quelle vous inspire la célébration de cette journée dédiée à la solidarité ou à la fraternité humaine dans ces contextes de guerre et d'agression en RDC?
Ça m'évoque en fait la situation paradoxale de laquelle nous sommes. D'une part, nous avons un repli identitaire et agressif vis-à-vis des autres nations dans beaucoup de pays. Et en même temps, effectivement, il y a chez toute une série de gens, qui sont peut-être la majorité dans le monde, mais c'est pas eux qui ont le pouvoir, hein, une volonté de solidarité, une envie de se définir comme citoyen du monde plutôt que citoyen d'un petit pays replié sur soi. Et donc effectivement, pour moi, c'est la marque du paradoxe humain, où ceux qui ont le pouvoir font peut-être l'inverse de ce que la majorité souhaiterait, mais la majorité n'a pas nécessairement le pouvoir.
Merci, on prend une petite pause avec cette chanson d'espoir intitulée « Tosa bien » de Gloria Bash. On revient tout de suite après. C'était Gloria Bach dans Tosa vient, cette chanson d'espoir, comme pour dire que, peu importe les adversités, nous devons garder espoir. On revient à l'actualité de cette semaine. L'Angola appelle le M23 et les forces rwandaises à se retirer sans délai du territoire congolais. Dans un communiqué publié mercredi 29 janvier 2025, le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, déplore l'occupation de Goma et annonce son intention de convoquer de nouvelles discussions à Luanda. Toutefois, il conditionne cette initiative au retrait immédiat du M23 des territoires illégalement occupés ainsi qu'au départ des forces de défense rwandaises. Par ailleurs, la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, réunit toujours le même mercredi en visioconférence pour discuter des tensions dans l'Est de la RDC, a appelé toutes les parties au conflit à cesser les hostilités, à observer un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à faciliter l'accès humanitaire à la population affectée. Le sommet a appelé à un règlement pacifique des conflits et a fortement invité le gouvernement de la RDC à s'engager directement avec toutes les parties présentes, y compris les M23. Enfin, les sommets recommandent les deux communautés régionales, la SADC et l'EAC, d'organiser un sommet conjoint pour voir la voie à suivre. Le sommet a chargé le président kényan Ruto de consulter le président de la SADC sur la convocation urgente de cette réunion dans les prochains jours. Sachez que le président Tshisekedi n'a pas participé à cette réunion. Nikes Kibelbe-Oka, vous êtes journaliste, vous êtes éditeur du journal Les Coulisses. Vous venez de publier l'ouvrage intitulé « Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024 ». Vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de la dimension régionale et de ces conflits. On vous écoute.
Oui, merci. La guerre qui déchire la RDC, bon, même si on dit la guerre de l'Est, mais c'est la guerre de la RDC, est une guerre de géopolitique africaine et internationale et qui implique pas moins de 5 pays avec des réseaux régionaux et internationaux dans un mélange entre les ambitions africaines et des visées géopolitiques venues outre-mer. Et quand vous regardez très bien, les groupes armés qui naissent, ils ne naissent pas au Congo, même s'ils portent la dénomination congolaise. Et leur quartier général, souvent, soit c'est à Kigali, soit c'est à Kampala. Et vous allez vous rendre compte aussi que, généralement, il y a une dichotomie ou une confusion, ou même une mauvaise analyse de groupements régionaux. Vous l'avez tout à l'heure dit, East African Community demande à ce que le gouvernement congolais puisse discuter avec le M23. La SADC, à travers le président angolais, demande à ce que le Rwanda puisse se retirer du Congo. Dans cette confusion, dans cette dichotomie, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on doit faire. Et le problème qui se pose, c'est que on fait semblant de considérer toutes ces guerres en Afrique comme étant des conflits ethniques, mais c'est plus des conflits géopolitiques qui se basent sur le partage des richesses. Et notamment pour le cas de la RDC, la convoitise et le partage des richesses minières plutôt. Donc voilà un peu la dimension régionale et internationale de ce conflit.
Oui, Nikes Kibelbe-Oka, quelles influences pourraient avoir sur ces conflits des blocs sous-régionaux tels que la SADC et l'EAC, là où il est dit que cette crise entre la RDC et le Rwanda a des ramifications au-delà de l'Afrique?
Oui, d'abord, du point de vue économique, vous savez, quand vous êtes à l'Est, Kinshasa est considéré et vu comme la périphérie par rapport à Kampala et Kigali. L'économie ou les économies sont tournées vers le Rwanda et l'Ouganda. Mais il y a aussi cette économie de pillage qui se passe régulièrement plus à l'Est qu'à l'Ouest. Donc, du point de vue de l'Est, Kinshasa est très éloigné et on manipule facilement l'Est. Vous allez constater aussi que toutes ces guerres depuis 30 ans commencent par Goma. C'est-à-dire, ce n'est pas des guerres pour aller faire un coup d'État à Kinshasa, c'est des guerres effectivement de richesses et de balkanisation. Alors, aujourd'hui, on constate effectivement ce tiraillement entre la SADC et l'EAC. Le président Museveni l'avait dit, il avait condamné, il avait fait des reproches au président Tshisekedi d'amener ce dossier à la SADC. Or, pour la RDC, la SADC semble plus ou moins sûr par rapport à l'EAC, mais ça change aussi la dimension politique. On ne sait plus si la RDC est en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est. Donc c'est cette dimension géopolitique de la guerre qui fait qu'aujourd'hui, presque toutes les 5 années, cette guerre revient, mais sous un mensonge de conflits ethniques, de haine ethnique et de mauvaise gestion du pouvoir.
Merci, Josaphat Moussamba. Vous êtes doctorant à l'Université de Gand en Belgique. Vous êtes chercheur congolais basé au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Dans ces conflits, on a l'impression que la SADC joue une carte qui n'est pas celle de l'EAC et vice-versa. Et du coup, on est tenté, n'est-ce pas, de se demander si on ne va pas se trouver devant un scénario qui mettrait face à face les deux blocs dont l'un soutiendrait la position de la RDC, celle qui consiste à rejeter tout éventuel dialogue avec l'M23, et l'autre qui encouragerait plutôt ce dialogue.
Oui, ces éléments analytiques existent dans le conflit. Et alors moi, je préfère préciser, contrairement à Nikkez, que partir de l'analyse des conflits à l'est du Congo comme un seul type de conflit et ne pas voir l'enchevêtrement de conflits, et ça nous déroute un peu, et le voir comme seulement un conflit géopolitique, ça nous déroute un peu. Moi, je suis dans l'analyse très localiste, regarder comment les dynamiques locales impulsent ce type de conflit régional. Et donc, c'est qui s'est démontré que le président de la République était avec, a rejoint l'EAC, invité l'EAC Rapid Force. Il n'a pas marché. Vous avez vu comment est-ce que l'EAC s'est bataillé avec le Burundi à Kichanga. Le président a demandé ce qu'il rentre. Il est parti chercher dans le bloc où nous on a existé. Et c'est une autre force qui est venue, il y a la MONUSCO qui est là. Par contre, si on regarde les déclarations, comme on dit, les approches discursives de la sécurité, on va voir que les deux blocs sont divergents par rapport à la conception. Est-ce que le M23 c'est un terroriste? Est-ce qu'il faille parler ou pas? Ça, c'est des éléments assez importants. Il y a un bloc que Nikkez n'a pas soulevé ici, c'est le bloc CPGL. Les trois États de la région des Grands Lacs minimalistes, comme j'appelle ça, le Congo, le Rwanda, le Burundi, dans notre structure CPGL et aussi CIRGL qui est élargie aux autres, il faut regarder aussi les dimensions. Maintenant, moi, mon analyse un peu plus sécuritaire de la région, si et seulement si tous les pays, le Rwanda, action de ses accords militaires avec, par exemple, l'Ouganda ou le Kenya ou l'EAC où nous sommes membres, ça veut dire que les États membres de l'EAC sont en conflit aujourd'hui. Les États de la CPGL aussi sont en conflit armé aujourd'hui parce que le Rwanda a investi la ville de Goma avec les États. Et il parle maintenant des questions liées à son dispositif sécuritaire. Ça, pour moi, dans les pratiques discursives de la sécuritisation, Rwanda n'a pas nié, maintenant ça présente au Congo. Et ça pose des soucis au niveau des blocs. Et l'autre question, c'est que le Rwanda n'est pas ce complexe sécuritaire régional. Ça veut dire qu'un État va imposer ses approches sécuritaires dans tous les autres États. Il n'y a pas cette approche-là dans la région. Or, sur le plan économique, alors, comme on peut le voir, il n'y a pas que l'envie de contrôler, de piller, il n'y a pas que cela. Il y a des éléments évidents sur en fait, les configurations géographiques des populations qui habitent à l'est du Congo, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ouvira. Il est difficile d'exporter le coton, le minerai en grande quantité, l'amener à Kinshasa. C'est impossible, le temps ne vaut pas passer par là. Du coup, il y a cette théorie du procès là-bas dans la salle, il n'y a pas de cercle concentré. Le Rwanda, l'Ouganda et les autres, ce sont comme des états tampons où, lorsque nous exportons officiellement les minéraux, ça passe par ces états-là, ça ne va pas monter au-dessus. Bien sûr qu'il y a ces questions de fraude, de contrebande, et où ces pays-là favorisent les trucs et avec les Congolais, mais on ne peut pas généraliser que toute l'économie de l'Est est une économie de pillage. Ça ne passe pas parce que les communautés qui vivent de cela et qui sont très éloignés de Kinshasa, comme Nikes a dit, et ont du mal, si vous voulez, à traverser de l'Est à l'Ouest, il n'y a pas de route. Donc, on est contraint à cet espace-là, et les conflits aujourd'hui, moi je le vois dans l'angle un peu plus sécuritaire, les questions de sécurisation. Lorsque un État estime que sa survie ou bien ses frontières sont menacées, il va sécuriser, c'est-à-dire construire une menace au-delà de ses frontières, et à travers un discours de sécurisation, il va actionner ses pratiques non exclusives de sécurisation. Et le Rwandais, il n'en fait pas, mais en appuyant la rébellion, il transgresse en fait les lois internationales et ils vont agresser le Congo. Par contre, la dimension de la rébellion transnationale existe parce qu'on ne peut pas dire que toutes les rébellions ont des strongholds qui sont les bases au Rwanda et en Ouganda, alors qu'on sait très bien qu'ils ont stationné à Sabine pendant des années. On sait que des groupes armés encore ancrés chez les communautés Nandé, chez les Houndé, ancrés chez les Bembe, ancrés chez les Banyamulenge, n'ont pas de Kijé, ni au Rwanda, ni au Burundi. On peut étudier sur le réseau de groupes armés, et ça c'est encore autre chose, les liens, les partages sociaux des rébellions, on peut analyser.
Je n'ai pas comme ça va.
Oui.
Oui, mais dans les cas d'espèce, il est des notoriétés publiques que les M23 est soutenu, n'est-ce pas, par l'armée rwandaise.
Oui, ce n'est pas quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas soutenu. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que le Rwanda est, ce n'est pas soutenu, c'est pas la. Il est maintenant chez nous, parce que c'est maintenant une agression avérée. Avant, ils n'ont jamais dit ça. Ils leur parlaient seulement des questions de soucis, et parlaient de marginalisation et d'une rébellion. Mais on a suivi après la session au Conseil de sécurité, les déclarations qu'ils ont sorties, ça montre que, au-delà du fait qu'ils ont des tensions avec le RDC sur le M23, le Rwanda a aussi des problèmes avec le Congo. C'est cet angle analytique qui manque chez nous et que nous devons adresser et regarder comment, en tout cas, prendre toutes les mesures, parce que les Rwandais, ils ont bombé les torses, ils montrent maintenant qu'ils peuvent alors agresser officiellement. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire à Goma, les lives des diffusions d'émissions rwandaises qui commencent à diffuser en fait des éléments qui se passent à Goma. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est plus un élément de dire une fois, ça, c'est aussi un élément de présence rwandaise.
Merci.
Et ça, l'État congolais, ceux qui sont en train de soutenir aussi le Congo, devraient vraiment regarder ces.
Merci, professeur Pierre Virgence. Vous êtes politologue, professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembo en RDC. Professeur, on se rappelle qu'en 1998, l'Angola, à travers son armée, avait joué un rôle déterminant, n'est-ce pas, pour sauver le pouvoir de Kinshasa, à l'époque du fait président Eduardo dos Santos. Dans les contextes du moment où l'Angola et médiateur dans cette crise, est-il possible que ce pays vole une fois de plus au secours de la RDC comme en 1998?
On n'a pas l'impression qu'il est en train de bouger dans ce sens-là. Déjà par la posture de modérateur, forcément il se met moins dans une position de belligérant, tandis que en 1998, il y avait eu carrément un appel hein, de Laurent Désiré Kabila à avoir de l'aide. Ici, on n'a pas encore ça directement. Donc, il y a cette position de médiateur, l'appel à l'aide qui n'est pas la même, et on ne sait pas non plus si la capacité de l'Angola est la même qu'en 1998.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, Doudou Adoula Monga, chef d'orchestre des Aiko Langalanga, qui nous a quittés au mois de décembre dernier, a été inhumé le samedi 25 janvier ici à Kinshasa. Et pour lui rendre hommage, on va justement écouter ce générique intitulé « Beau » des Aiko Langalanga avec la danse Mokongo Yakoba, et on revient juste après.
Eh oui, Kokani saki liwana pongye Kokani. Tobeti kaka.
Aye, saki mama bisa.
Richard Kabara. Acid Lengelo. Le Creux.
Nana kosi atembe somoe.
Michel Bukasa.
Yokango suma.
Kevolo.
Bienvenue Kindongo.
Yo.
No cosa.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la journée internationale dédiée à la solidarité humaine qui sera célébrée le mardi 4 février prochain. Nous avons également analysé la dimension régionale du conflit de l'Est de la RDC. Participe à cette émission Nikes Kibel-Bel-Oka, il est journaliste et il est éditeur du journal Le Coulisse. Il vient de publier l'ouvrage intitulé Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Josaphat Moussamba, il est doctorant à l'université de Gand en Belgique. Il est chercheur congolais basé au groupe d'études sur le conflit et la sécurité humaine. Et en ligne aussi depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a invité mercredi 29 janvier les Congolais à faire preuve de résistance et surtout de résilience face à l'aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le président de la République dit privilégier la voie du dialogue, mais avec lucidité, tout en restant fermement résolu à défendre les territoires et la souveraineté par tous les moyens nécessaires. Pour le chef de l'État, le gouvernement souminois a été instruit d'activer les plans d'urgence humanitaire afin de venir en aide aux déplacés, aux habitants de Goma et ses environs. Dans son speech, Félix Tshisekedi a dénoncé la barbarie du régime de Kigali et regrette la passivité de la communauté internationale qui frôle la complicité. Félix Tshisekedi a encouragé les jeunes à servir les pays sous les drapeaux. Hormis cette catégorie sociale, il a également appelé tout Congolais, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, à faire bloc derrière le FRDC et à contribuer chacun à son niveau à l'effort des guerres. Professeur Pierre Virgence, vous avez souhaité nous parler de ce sujet en les formulant ainsi. Message du président Félix Tshisekedi à la nation dans un contexte de conflits asymétriques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, professeur Pierre Virgence?
Ce que je veux dire par là, c'est que le Congo est un très grand pays et le Rwanda un tout petit pays. Le Congo est un pays très peuplé et le Rwanda est un pays beaucoup moins peuplé. Malgré ce qui apparaît comme une évidence géopolitique, eh bien, en termes de réalité militaire, eh bien, on a exactement un effet inverse, avec une armée rwandaise qui décide où et quand les rebelles, qui sont appuyés d'ailleurs logistiquement par l'armée rwandaise depuis des années, attaquent, jusqu'où ils attaquent et avec quels moyens. Donc on a le Rwanda qui décide de faire une guerre, qui probablement l'arrêtera au moment où il le voudra. C'est le Rwanda qui va décider. On a bien entendu les rodomontades de Corneille Nanga disant qu'il irait jusque Kinshasa. Ça c'est, je dirais, le versant politique du M23. Sur le versant logistique et militaire réel, le M23 ira jusqu'où l'armée rwandaise l'autorisera à aller, tout simplement. Donc, c'est assez impressionnant de voir que la réaction du côté congolais, c'est déjà après 3 jours de conflit, simplement un message à la nation qui est rempli de contradictions et de termes vagues, et de l'autre côté, du côté rwandais, eh bien, on a un président qui intervient peu en termes de parole et qui est très agressif, puisqu'il n'a pas hésité à menacer l'Afrique du Sud, qui est quand même la première puissance militaire du continent, et à montrer qu'en fait, il faisait ce qu'il voulait sur ce territoire-là.
Lorsque vous parlez d'un message marqué par des contradictions et des termes vagues, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, les contradictions, c'est par exemple que le président Tshisekedi, quand il déplore les morts, il parle de nos casques bleus, de nos forces armées, des Wazalendo, etc. Et d'ailleurs, il remercie aussi ces éléments-là pour leur courage. Et puis, nos casques bleus, je dirais, ce ne sont pas des casques bleus congolais. Nos casques bleus, ce sont des casques bleus de la communauté internationale. Et donc, effectivement, s'il déplore le fait que la communauté internationale n'agit pas, il déplore ça, mais dès que la communauté internationale a été rendue impuissante par la décision même de Félix Tshisekedi, qui a décidé de se passer de ces forces-là en disant qu'elles ne servaient à rien. Voilà, ça c'est la première contradiction. La deuxième contradiction évidente, c'est quand il dit que on va réduire le train de vie des institutions dans un pays où on sait que depuis quelques années, c'est-à-dire en fait depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, le budget du cabinet présidentiel, je ne parle pas de l'ensemble des autorités publiques, simplement du cabinet présidentiel, représente 10% du budget de l'État, et donc ça veut dire que le budget présidentiel mange d'une façon extraordinaire les recettes du Congo. C'est évidemment assez étonnant qu'après ça, il ose appeler les citoyens à faire des efforts. Maintenant, il dit qu'il va faire des efforts lui-même, on va voir effectivement s'il est prêt à le faire. Mais je trouve ça assez intéressant de voir que d'un côté, donc, il conclut la communauté internationale en disant qu'elle est peut-être complice. De l'autre côté, il la remercie parce que il y a nos casques bleus qui sont courageux. D'un côté, il puise lui-même dans les caisses de l'État avec une légèreté extraordinaire. Et d'un autre côté,
c'est quand même trop fort dire qu'il puise dans les caisses de l'État avec légèreté. C'est quand même trop fort parce que c'est un budget qui lui est, n'est-ce pas, donné ou accordé par l'autorité budgétaire qu'est le Parlement, n'est-ce pas?
Tout à fait. Donc ça veut dire que les rapports de force entre le cabinet présidentiel et le Parlement sont assez clairs. On a fait assez d'analyses de la manière dont les dernières élections ont été organisées, ou plutôt désorganisées, et la façon dont les résultats ont été annoncés sans aucun lien vers les bureaux de vote. Et donc, je dirais, il ne faut pas essayer de dédouaner là les services du président de la République. C'est bien effectivement en soumission au président de la République que le Parlement vote le budget.
Merci, Josaphat Moussamba. C'est quoi votre opinion par rapport à cette question que vient de soulever le professeur Pierre Végence?
Moi, je ne suis pas très d'accord avec le professeur Pierre Végence, avec la manière dont il qualifie, comme vous l'avez demandé, c'était trop, de considérer qu'il puisse dans le président puisse dans les caisses de l'État. Ça, c'est une manière que je ne partage pas, parce que on connaît en Belgique, il y a aussi beaucoup de cas que des Belges ne révèlent pas, des malversations qui sont énormes. Et donc je suis d'accord avec lui sur le point de lier question de corruption. Et là, je suis d'accord avec lui, je ne vais pas les nier, je ne suis pas quelqu'un de pauvre. Il y a beaucoup de questions de corruption, et ça a été demandé, que ce soit au niveau politique, que ce soit dans les chaînes des dépenses, qui ne respectent pas, et des questions de rapport, de force qui passent sur les questions de politique, au détriment, par exemple, des acteurs de la bureaucratie, de l'administration. C'est sûr que, bien que le régime dise essaie de faire des augmentations sur des salaires des agents. Par contre, on voit certainement, il y a eu beaucoup de cas de malversation, de détournement, ça c'est pas des choses à réfugier. Par contre, oui, si le professeur Jean Cécile qui a des contradictions, je suis d'accord avec lui en point. Un président est là, il dit, il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a aussi nos amis de la Lucha, et aussi des gens qui disent, là, Tim Kouébo, qui avait demandé que la MONUSCO parte, pourtant le moment n'était pas encore indiqué. Sur ce point, je suis d'accord, on dit, on chasse la MONUSCO, mais entre-temps, c'est elle qui aide d'ailleurs sur le plan des renseignements des drones, parce que le Congo n'en avait pas. Et la MONUSCO aidait à avoir ces images pour entrées, les entrées des Rwandais, etc. Et donc ça, c'est une contradiction que je trouve assez intéressante. Par contre, c'est normal qu'un chef de l'État, même si, bien que les FARDC ont perdu la bataille de Goma, ça ne fait pas tout. Et donc, le président devait s'adresser, bien sûr, de contradiction, mais il devait s'adresser aux Congolais. Et rester sans rien dire, ça poserait des soucis pour nous. Mais c'est aussi un moment, peut-être, de réflexion. Le président de la République devrait réfléchir davantage, parce que il y a cette vent avec le régime UDP, UNC, AFDC, il y avait une sorte de triomphalisme qui ne disait pas son nom à tout ça. Et où on voulait aller vers, au-delà, et moi je vis le président réduit, un président qui revient peut-être, qui rentre sur la terre. Il n'y a plus de triomphalisme, mais je pense qu'il est de son devoir de dire aux Congolais, si les FARDC ont perdu les batailles, écoute, ce n'est pas la fin du monde. En plus, pour finir du matin, et je pense que le professeur Philippe, si c'est que le Congo a une loi de programmation militaire et qu'il en existe aussi en Belgique. Et cette loi de programmation militaire a séquencé les paiements, les achats de logistique militaire.
Merci.
Donc, tous ces armes-là ont été achetées avec l'argent du pouvoir congolais. Et ils sont saisis par un patron et des Rwandais montrent ça. On ne peut pas dire que tout l'argent, le président a mis ça dans sa poche comme une partie analytique, c'est un angle qui ne colle pas avec le facteur. Et je suis désolé.
Merci. Merci, Nikes Kibel-Beloka. Et vous, quel est votre point de vue par rapport à ces discours? Lorsque vous avez suivi les chefs de l'État en train de faire ces messages à la nation, c'est quoi votre point de vue par rapport à ces messages?
Oui, merci beaucoup. D'abord, je vais souligner une chose pour le professeur Pierre Fligence. Quand il dit que la guerre s'arrêtera quand le Rwanda voudra, en 98, la guerre ne s'est pas arrêtée par la volonté du Rwanda. En 96, la guerre ne s'est pas arrêtée par la volonté du Rwanda. Par contre, si
comme en 2013, non plus. Comme en 2013 non plus, quand on a défait les M23.
Comme en 2013, merci beaucoup. S'il reconnaît que nous sommes dans une situation géopolitique, il ne doit pas se contredire. De deux, nous avons des esthétiques de réception différentes. Quand on est européen comme africain, un africain sait dire merci à toute personne qui lui a rendu service. Comment il peut condamner le chef de l'État qui voit des casques bleus mourir pour le Congo? Comment il peut dire que c'est une contradiction? Mais ce sont des enfants sud-africains. Nous, avec les sud-africains, nous, avec tous les Africains, nous sommes des frères. Donc ça, c'est une mauvaise perception européenne de la relation de l'Africain entre l'Africain et l'Africain. Donc, entre Africains. Ça, c'est une chose. Comment on peut reprocher à un chef d'État d'appeler sa population à la résilience et à la résistance? Et effectivement, ce sont ces genres de discours qui créent la division. On fait la confusion. On nous dit que c'est une guerre ethnique, alors que c'est une guerre avant tout une guerre de pillage. Donc, ces discours européanisés chez nous, et Josepha l'a dit, avec des médias, avec des professeurs d'université, ne collent pas. Et cet amalgame, nous sommes en guerre, nous sommes agressés depuis 30 ans, et le professeur parle de qu'est de l'État. Non, ça ne marche pas. Si le professeur est les deux pieds sur terre. Par contre, le Congo a des problèmes très sérieux et le Congo fait face à une guerre internationale. Nous avons parlé des dangers régionaux et internationaux. Vous l'avez souligné, l'armement que le Rwanda a fait l'argent pour acheter tout cet armement. Tout le monde sait que le Rwanda est soutenu par les Américains, les multinationales américaines, britanniques, françaises et autres. Ça, on le sait. Alors, comment vous pouvez, un pays qui souffre, un pays qui lutte contre la balkanisation, vous pouvez dire que non, c'est la faute à ces pays-là? Non, là, je ne suis pas d'accord. Donc, je dis simplement ceci, que le chef de l'État, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a le devoir d'appeler son peuple à la résistance et à la résilience. Donc, le Congo est agressé, le Congo est en train de pleurer ses morts, et il est pitié de ces pays-là au lieu de dire n'importe quoi.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Mombasa de Lipoa Lipoa et on se retrouve juste après.
Nasili si banal mobimba pona koluka yo, na mona yo wapi, mita kufa bure.
C'était Mombasa avec l'orchestre Lipoa Lipoa qui a fait parler de lui pendant la décennie 70 avec comme leader notamment Kantani Boma. Kantani Boma vit en Europe depuis plusieurs années. Je rappelle que nous avons dans cette émission Nikes Kibelbel Oka. Il est journaliste, il est éditeur du journal Les Coulisses. Il vient de publier l'ouvrage intitulé Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. En ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Josaphat Moussamba, doctorant à l'université de Gand en Belgique. Il est chercheur congolais basé au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Vigence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. La situation humanitaire extrêmement grave à Goma nécessite une attention immédiate de la communauté internationale. C'est l'alerte lancée par les coordonnateurs humanitaires en RDC dans son communiqué de presse publié jeudi 30 janvier à Kinshasa. Après plusieurs jours d'affrontements intenses, la ville fait désormais face aux conséquences désastreuses des combats avec des besoins humanitaires massifs et des capacités de réponse gravement affectées, déplore-t-il. Bruno Lemarquis appelle ainsi toutes les parties à protéger les civils et à assurer leur accès aux biens et services essentiels à leur survie, mais aussi à faciliter, accélérer et protéger les ravitaillements des acteurs humanitaires. Josaphat Moussamba, vous avez souhaité nous parler de la présence du M23 dans la ville de Goma avec cette question humanitaire et libre circulation des personnes. On vous écoute.
Ok, merci. Merci beaucoup pour discuter cette question de la présence du M23 et aussi, il ne faut pas oublier des militaires rwandais. Ça, c'est des précisions qu'il faut le faire. C'est que les derniers ou trois derniers jours, lorsqu'ils ont investi, comme Nikes a dit, il y a eu une forte résistance des militaires congolais, des gardes républicains et d'autres. L'autre question, c'est qu'on ne s'est pas encore identifié parce que vous vous rappellerez lorsque M23 va contrôler Sake et les affrontements autour de Bambiko, qu'il y avait des plans de déplacer à la fois Kanyarutinya pour en aller vers Nyiragongo, les camps de Lushagala autour de Lac Verse, ça c'est dans l'est de la ville de Goma, Oshomugunga et pour aller vers Lac Verse. Et donc, ces populations qui sont dans les camps de déplacer, il y en a qui se sont déplacés, qui sont retournés dans les camps. Alors, ce qu'on sait, c'est que ceux qui étaient autour de Nzundo, etc. Certains se seraient retournés à Chata et Hiroshi, etc. Mais sur le plan humanitaire, c'est la question de comment on gère les cadavres, comment on remet en profit en marche les besoins essentiels d'électricité, l'eau aussi. Par contre, les activités que le SAR recommande. Par ailleurs, vous savez, dans le moment comme ça des crises, la présence rebelle ou bien des forces étrangères sur un espace, c'est le moment de reconfiguration en fait de la bureaucratie. Comme déjà le M23 est en train de le faire dans les autres zones qu'il a contrôlées, il a nommé les autorités locales, il a nommé des administrateurs, des chefs de village, bien créant aussi des précédents. Mais on ne sait pas encore dans la ville de Goma si ils ont.
Josaphat Moussamba.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation humanitaire qui inquiète tout le monde?
Alors, face à la situation humanitaire, je pense que ce qui est pour le compte du M23 et même pour le Rwandais, surtout le Rwandais aussi, c'est d'ouvrir des couloirs humanitaires, surtout pour des expatriés de bas qui étaient coincés, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient coincés dans les camps, à la fois ceux qui sont en plein centre et ceux qui sont autour de l'aéroport. Il fallait ouvrir des couloirs humanitaires pour permettre que les expatriés qui ne sont pas dans les conflits qui se rendent. Et je pense qu'il y avait un couloir qui était ouvert aussi avec le Rwanda. Certains partaient à Kigali pour être évacués. Ça, c'est un. Deux, c'est permettre parce que eux aussi, la province M23, ils ont été affectés. Ils ont connu aussi des morts qu'on ne connaît pas encore. Vous voyez, le couloir humanitaire peut permettre à ce que la Croix-Rouge, la CICR, ils vont passer pour que les parties en conflit ramassent chacun ses morts, puis des blessés. Et ça, c'est une chose. L'autre question, c'était de permettre à ce que les activités locales redémarrent. Parce que la plupart des gens étaient dans leur maison, que peut-être des contextes où beaucoup de matériels militaires jonchent, selon ce que moi je reçois ce matin. Il y a beaucoup de familles qui ont fui dans l'ouest de la ville de Goma, Roussayo, Bouéné, Kanyan. Et donc ça prend un peu Goma et Miragongo.
Merci.
Mais on signale aussi qu'il y avait des affrontements de résistance. Donc il y a des questions humanitaires assez explosives et qui nécessitent que, à la fois les Nations Unies, à la fois aussi le Rwanda et le M23 ouvrent l'espace pour les humanitaires. Apporte d'appui à la fois à des déplacés qui étaient déjà là-bas, pour lesquels leur combat dans les territoires les ont chassés. Et donc, ça, c'est des questions sur lesquelles le droit doit aussi
mettre
sur la table.
Merci, professeur Pierre Vigence. Comme l'a déploré Bruno Lemarquis, les besoins humanitaires sont massifs, malheureusement, des capacités de réponse gravement affectées. Il faut donc des réponses immédiates et efficaces. Ces réponses viendraient d'où, à votre avis?
Ouais, je pense que les réponses sur le plan humanitaire, le plus efficace, c'est qu'elles soient concertées et que, comme le président de la République, que j'ai fort critiqué tout à l'heure, a dit que, à côté de la mobilisation et de la réplique que les forces armées congolaises vont donner, il va aussi entamer un dialogue. Là, ça vaudrait la peine, effectivement, que sur ces points concrets-là, il y ait un dialogue entre d'une part les organisations internationales, les organisations non gouvernementales dont on vient de parler, mais aussi les troupes rwandaises, le M23 et le Congo, donc les autorités congolaises, il y a un dialogue pour qu'on puisse au moins commencer à soigner et à nourrir et à provisionner en eau et en électricité les gens qui sont dans le besoin, parce qu'on sait, enfin ça a été rappelé, que Goma est submergé déjà par des réfugiés des mois précédents. Et donc, c'est vraiment effrayant pour eux d'être dans une situation où ils sont pris en tenaille et puis maintenant, je dirais, laissés pour compte en quelque sorte. Et donc, le mieux, c'est effectivement de réussir à dialoguer. Mais c'est très difficile de dialoguer pendant que, par ailleurs, 40 kilomètres plus au sud, on continue à se battre.
Merci, Nikes Kibet-Bel-Oka. On va finir cette émission avec vous. Que faire pour éviter une catastrophe humanitaire à Goma si on n'y est pas déjà?
En principe, on devrait tout faire pour éviter. Mais comme nous sommes déjà depuis 30 ans dans cette spirale de violence, ce qu'il faut, il faut nécessairement trouver des solutions pour négocier et la paix. Parce que les populations déplacées ne peuvent retourner chez eux que lorsqu'il y a la paix. Il faut arriver à trouver une solution définitive à cette aspirante de France qui date de plus de 30 ans.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Professeur Pierre Virgence, Josaphat Moussamba et Nikez Kibelbel Oka. Merci aussi à Alain Goy qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Daddy et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sevoujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Tête Africaine, une composition de Kisangani Espérant Djengaka de l'orchestre Langalanga Star, et on se retrouve le samedi prochain.
Chérie,
Mayele, Mayele.